Béatrice Deris, sociologue à l'école Rockefeller à Lyon et aussi formatrice. Et donc Romane Petrouchine, pédopsychiatre et chercheur à l'Orsper Samdara. Donc je vous laisse la main. Donc ils vont restituer en partie une étude qui était portée par l'Orsper Samdara. Merci.
Alors ce serait une intervention à deux voix, contrairement à ce qui est marqué dans le programme, qu'on a intitulé « Épreuve de trajectoire et épreuve de narrativité dans la prise en charge d'un adolescent difficile » qu'on a anonymisé et appelé Kevin. Donc cette communication à deux voix, celle d'un pédopsychiatre et d'une sociologue, ma collègue, donc, s'appuie sur le résultat d'une étude de cas que nous avons menée ensemble de juin 2014 à décembre 2015. Une étude de 4 cas d'adolescents dits difficiles à croiser du travail social et de la psychiatrie. Donc c'est une recherche portée conjointement par le Centre Max Weber et l'Orsper Samdara. Et le focus, la problématisation, c'était l'action des épreuves de professionnalité, épreuves rencontrées dans la prise en charge des adolescents en grande difficulté. Donc cette notion d'épreuve de professionnalité est utilisée au double sens du mot épreuve, à la fois éprouver et faire la preuve, c'est-à-dire l'art d'identifier les épreuves et aussi de les surmonter, de trouver des moyens de les surmonter par différentes voies. Cette notion d'épreuve de professionnalité permet d'analyser les transformations organisationnelles et institutionnelles de l'exercice du métier au plus près des professionnels et de leur expérience personnelle. Alors, je vais faire quelques réflexions méthodologiques extrêmement courtes parce que le temps est limité. Simplement pour dire qu'en pratique, autour de Kevin, nous avons fait 13 interviews de professionnels que nous sommes répartis entre nous deux. Que nous n'avons pas rencontré Kevin, et ça c'était un point central de la recherche, que nous n'avons pas rencontré l'adolescent, que nous avons aussi analysé le dossier de prise en charge partagée au Conseil général, et que nous l'avons analysé aussi de façon qualitative. Et je pense que je vais m'arrêter là pour la question méthodologique.
Peut-être annoncer les trois points.
En pratique, notre exposé va du coup avoir au fond deux points, c'est-à-dire qu'on va reconstruire la trajectoire de Kevin pour que les auditeurs aient comme ça une représentation de cette trajectoire, et puis après nous la discuterons en essayant de mettre en exergue ce qu'on a appelé quatre formes de modalités de régulation de la trajectoire que je vais citer. Troubles de l'indication, la régulation par un processus narratif, la régulation par les clashs et la régulation par le domicile et le chez-soi d'abord. Et je laisse la parole à ma collègue Béatrice Deris.
Voilà, donc avant de partager ces quelques résultats sur ce qu'on considère comme étant une expérience publique de la trajectoire de Kevin, on voudrait en dire quelques mots. Mais il faut préciser que c'est une trajectoire que nous avons reconstituée en chercheurs. Donc c'est une nouvelle mise en récit de la trajectoire à partir du croisement des récits que nous avons recueillis, sachant que leur somme ne saurait de toute façon jamais aboutir à la construction objectivée de la trajectoire interinstitutionnelle de Kevin. Et en fait, tout comme les synthèses du dossier de prise en charge partagée que nous avons lu, notre récit répond à un besoin d'y voir clair, et notamment de rétablir des continuités temporelles, et il témoigne également de notre intérêt à problématiser le plus précisément possible l'endroit des crises d'orientation, là où s'intensifient les épreuves de coordination entre les acteurs. Alors, effectivement, la prise en charge de Kevin parcourt une succession de situations interinstitutionnelles qui, à chaque fois, articulent un réseau de preneurs en charge. Et ces configurations-là, elles ne sont pas directement accessibles dans le dossier. En fait, il faut défricher les correspondances, les notes personnelles et les comptes rendus, les confronter aux données recueillies lors des entretiens. Et les périodes biographiques qu'on reconstitue ainsi, elles mettent en exergue comment à chacune d'elles correspond une configuration du réseau et à chaque configuration du réseau, une problématisation du cas. On est intéressé par la manière dont les acteurs problématisent la prise en charge. Donc, chaque situation se clôt par une rupture qui réactualise la question de l'orientation et de l'affiliation et qui ouvre sur une nouvelle situation interinstitutionnelle. Et ces crises successives scandent le travail de la commission de prise en charge partagée et structurent ce dossier en autant de chapitres avec des chemises et des sous-chemises. Alors première, on va donc restituer ces quelques périodes. La première, entre 0 et 11 ans, ou 1 an et 11 ans, on va plutôt dire, ce sont les premiers placements de l'enfance et la mise en place d'une double continuité pédopsychiatrique et protection de l'enfance. Alors Kevin a 16 ans lorsque nous entamons nos premiers entretiens, et il avait 1 an lors du premier signalement au juge des enfants qui provenait de sa grand-mère maternelle, 4 ans quand il est confié pour la première fois à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement du juge des enfants. Et en fait, depuis lors, sa trajectoire de vie s'est déroulée exclusivement en dehors de sa famille. Pas de retour dans la famille, comme vous le disiez, et en particulier en dehors de sa mère, avec laquelle ses infimes contacts reste continuellement source de perturbations pour lui comme pour les professionnels en présence. Alors, cette période des premiers placements, famille d'accueil, MEX, puis une hospitalisation qui finira par être à temps plein en pédopsie, c'est le temps de la mise en place d'une double continuité, comme je vous disais, qu'on qualifie à la fois de verticale et d'horizontale, temporelle et spatiale. On parlait d'espace et de temps ce matin. En première table ronde. Donc, elle est assurée par la pédopsychiatrie et la protection de l'enfance, et ça, elle fait écho à la continuité du soin pour la pédopsie, la continuité administrative pour l'autre, qui sont des principes de régulation chers à ces deux grands secteurs, en fait. Et ces deux acteurs, en fait, ils vont cohabiter tout au long de la trajectoire de Kevin. Kevin, donc, qui fréquente l'école primaire du centre hospitalier de secteur dans le cadre d'une hospitalisation de jour, hein, ça va être son école tout le long de sa scolarité primaire, il va finir par y habiter, en fait, deviendra son lieu de vie. Et c'est dans cette perspective, et puis avec la perspective surtout de l'âge de sortie du primaire, qu'on est pensé pour la première fois la question du médico-social, et que s'ouvre pour lui un dossier de prise en charge partagée dans ces fameux dispositifs dont vous parliez, de concertation interinstitutionnelle. Deuxième grosse période, 11 ans, 13 ans, c'est donc ce qu'on a appelé l'entrée dans l'adolescence et la problématisation médico-sociale, avec les premières orientations vers le secteur du handicap. Donc là, cette période coïncide avec un retour de Kevin en foyer de l'enfance, où il séjourne durant deux années. Ça constitue l'espace-temps à partir duquel se prépare et se concrétise une orientation vers le secteur médico-social. Le chef de service du groupe où il est accueilli est vraiment la cheville ouvrière de cette orientation, en appui sur la fameuse commission. Et ce qui est intéressant, c'est que le médico-social est tout d'abord pensé, on verra les retournements futurs, à venir, mais il est tout d'abord pensé 365 jours sur 365, avec une MEX pour adolescents qui vient secondairement, mais en soutien, pendant que se mettent en place des soins ambulatoires en centre médico-psychologique. Troisième période, la crise de la prise en charge partagée ou l'énigme médico-sociale. Donc là, 13 ans, 15 ans. Cette troisième période se cristallise autour de l'impossibilité pour Kevin de tenir sa place en institut médico-éducatif. Alors, ce projet, qui est pourtant partagé par les différents acteurs de sa prise en charge, y est assorti de son impossible concrétisation. Et il alimente durant 2 ans une véritable crise d'orientation, et l'histoire institutionnelle de Kevin se densifie autour de cette difficulté de tous à faire tenir dans la durée les montages sophistiqués qui devraient rendre possible le maintien de la prise en charge en médico-social. Kevin, par ses comportements, est le premier à les faire craquer. Et sa présence en institut médico-éducatif pose rapidement des problèmes à tout un tas de protagonistes. Alors lui-même, pour commencer, les équipes éducatives, les autres enfants dont les parents vont se signaler par une pétition, l'association gestionnaire qui... Et ça introduit quelques mois après son admission, tout cela, donc peu de temps après son admission, et la répartition des temps d'accueil, qui est respectivement en IME et en foyer pour ados, s'inverse progressivement. D'abord dans le nombre de nuits passées ici et là, puis dans les rôles respectifs qui jouent les uns et les autres, de lieu de vie permanent à prise en charge subsidiaire. L'IME aux 14 ans de Kevin, n'intervient plus que quelques journées par semaine et avec un montage extrêmement sophistiqué, donc où les uns et les autres se soutiennent mutuellement. Il y a un emploi du temps, comme vous le précisiez, qui est conçu depuis la commission prise en charge partagée, qui permet de faire tenir et qui lui-même, je dirais, est très découpé. Il articule sur le papier une pluralité de lieux, avec un Kevin qui circule, transporté par les chauffeurs du service d'aide sociale enfance d'un endroit à l'autre. Et à ce moment-là rentre l'unité d'hospitalisation au sein de laquelle on avait choisi le cas d'hospitalisation de psychiatrie pour adolescents, où Kevin débute ses premières hospitalisations séquentielles. Et la prise en charge, qui est extrêmement réduite en IME, est conditionnée par la présence jusque dans l'établissement d'un éducateur du foyer qui assure un accompagnement personnalisé de Kevin. Il est dans l'IME, mais accompagné par un éducateur qui vient d'ailleurs, un dispositif dit de renfort éducatif qui ressemble un petit peu à ce que vous disiez. Mais alors, c'est ça qui nous intéresse, c'est que ce dispositif de renfort éducatif a une durée déterminée de 8 mois, et lorsqu'on va suivre la stricte chronologie des événements, l'interruption du financement de ce dispositif et du coup du dispositif lui-même, ensuite retrait de l'IME, ensuite arrêt de l'hébergement du coup au foyer parce qu'il n'était là que si l'IME était là, et du coup puisqu'il n'y a plus le foyer, eh bien, il n'y a plus de possibilité d'admission dans un nouvel IME qui avait été trouvé mais qui est envisagé que si le foyer est encore là, et donc un enchaînement en cascade, enfin un engrenage comme la notion d'engrenage de ce matin, qui est traversé de violents passages à l'acte de l'adolescent lui-même et qui s'accompagne d'une intense correspondance entre tous les acteurs, entre les réunions de la commission de prise en charge partagée. Kevin, du coup, ne repartira pas de son séquentiel donc en unité de soins pour ados, et ce séquentiel se convertit de facto en hospitalisation temps plein et surtout en lieu d'hébergement. Dernière période, la fabrication d'un lieu de vie sur mesure et l'apaisement de la problématique d'orientation, donc 15 ans, 16 ans et demi. Et donc là, à cette période, il y a un consensus dans la commission de prise en charge partagée selon lequel il faut renoncer à un foyer classique de l'aide sociale à l'enfance. Et à ce moment-là, entre en scène une grande association de protection de l'enfance et de l'adolescence qui est en train de mettre en place des lieux de vie expérimentaux selon une logique qualifiée de sur-mesure. Après ces 5 mois d'hospitalisation, Kevin est donc hébergé dans un lieu de vie qui est ouvert spécifiquement pour l'accueillir, avec embauche de 3 permanents, à la demande de la direction départementale de l'aide sociale à l'enfance. C'est une mesure administrative et judiciaire, mais en même temps, ça fait l'objet d'une orientation de la MDPH, de telle sorte que si on regarde les choses administrativement parlant, en fait, ce lieu, il est inscrit dans une pluralité de blocs de compétences, y compris le médico-social, qui était réticent jusque-là à le prendre en charge. Et en fait, tous les 3 mois, donc, il y a cette fameuse réunion de la prise en charge partagée, comme si le lieu de vie était l'instrument pratique de la prise en charge partagée. Une sorte de plateforme intégrée à même l'habité, sur la base d'un renoncement au médico-social dans sa forme établissement, et où l'hospitalisation psychiatrique peut enfin reprendre sa modalité séquentielle. Et cette période du lieu de vie, c'est donc celle durant laquelle nous effectuons nos interviews et où on ressent un apaisement de la question de l'orientation. Et pour autant, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a quand même la mise en place d'un placement liberté surveillée une dizaine de mois après l'arrivée dans ce lieu de vie de Kevin, suite à des dépôts de plainte de l'association gestionnaire pour dégradation du lieu, pour agression sur les permanents. Entre dans le réseau donc la PJJ. Il y a plus tard un séjour en établissement pénitentiaire pour mineurs, puis ensuite dans une unité de soins psychiatriques intensifs. Donc cette judiciarisation pénale de la prise en charge, pour autant, elle ne met pas définitivement un terme à l'accueil en lieu de vie, mais elle en forge l'expérience. Et en fait, sur 3 ans, on peut dire qu'une forme se construit institutionnellement et tente de se conceptualiser au gré des épreuves rencontrées auprès de Kevin par les permanents du lieu. Alors, pour conclure cette reconstitution de trajectoire, on pourrait dire qu'elle met en relief la trajectoire de ce qui est le problème de la prise en charge. Comment assurer une continuité? Comment lutter contre l'inachèvement? Le problème de Kevin affleure à peine dans ce que je viens de présenter, alors que pourtant il lestait le récit d'expérience de la plupart de nos interlocuteurs. Que la souffrance de cet adolescent ne constitue pas l'intrigue de notre mise en récit serait-il révélateur de la façon dont les différents intervenants problématisent les épreuves qu'ils traversent? Si peu de place est accordée à la personne de Kevin dans cette trajectoire récit, alors on pourrait faire l'hypothèse que c'est parce que la problématique de cet adolescent n'est plus centrée sur sa personne, mais sur la trajectoire des échecs institutionnels de sa prise en charge, comme si l'épreuve collective de sa trajectoire n'était plus celle de la compréhension de sa souffrance, mais celle de la compréhension des échecs des institutions.